Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet sur Web Radio.
Et s'il fallait ne plus travailler pour véritablement œuvrer ? Depuis l'Antiquité, les philosophes cherchent, entre autres choses, à définir l'homme. Et bien qu'ils ne soient pas d'accord sur toutes ces autres choses, ils semblent s'accorder à penser que l'homme se définit par sa raison. L'âme, l'entendement, le logos, la conscience, l'intellection ou encore l'esprit sont autant de noms donnés à cette faculté qui définirait l'homme. Mais cette recherche de définition de l'homme n'est pas simplement descriptive, elle n'est pas désintéressée. La définition de l'homme permet de le différencier des autres êtres, mais elle cherche du même coup à légitimer sa supériorité. En s'accordant sur la définition de l'homme comme animal rationnel, la pensée occidentale s'est construite sur la conviction que la logique, l'interprétation, la représentation et la compréhension sont les fruits exclusifs de l'espèce humaine. La supériorité de l'homme sur la nature et ce qui la compose s'impose. C'est ce que Pascal défend dans cet extrait de ses pensées. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Cela permet de justifier pourquoi la recherche de la vérité et la compréhension du monde est primordiale. Si notre nature est de penser, la plus haute finalité que nous pouvons viser est celle de trouver la vérité par notre pensée. S'ensuit toutes les théories qui font du lieu de la vérité un arrière-monde ou un sur-monde qu'il faudrait découvrir et explorer à l'aide de notre raison. Comme si cette faculté exclusivement humaine était l'unique chemin d'accès à ce qui se cache sous nos yeux, sous nos sensations. Cette définition de l'homme impose une hiérarchie qui place la contemplation au-dessus de l'action. Penser est alors mieux que faire. Réfléchir est mieux que s'agiter, travailler ou encore chercher à manger ou à séduire. Il faut attendre Kierkegaard, Marx et Nietzsche pour voir apparaître les premières remises en question de cette définition humaine que la religion monothéiste a rendue sacrée pendant le Moyen-Âge. Ces penseurs vont chercher à montrer que la pensée rationnelle n'est pas nécessairement ce qui définit l'homme. Ils vont ainsi remettre en question la hiérarchie qui fait de la recherche de la vérité la finalité humaine par excellence. Un peu plus tard, Bergson osera définir l'homme par sa faculté à fabriquer. L'homo faber est alors le nom que donne Bergson à l'homme. Son argument principal est limpide. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, ce qui détermine l'homme est sa faculté à se réinventer par ce qu'il fabrique. L'âge de pierre et l'âge de bronze définissent déjà l'homme par rapport à sa production. Nos idées, nos théories, nos conflits politiques et nos projets n'ont d'importance qu'à une échelle de temps très courte. Par contre, la création de l'imprimerie, le moteur à vapeur, Internet ou les centrales nucléaires sont des inventions qui ont changé à jamais le sort des êtres humains. Pour Bergson, l'homme est homo faber. Sa nature est de se créer lui-même, de s'inventer lui-même. Si Bergson propose une nouvelle définition de l'homme qui met à mal la hiérarchie traditionnelle entre la contemplation et l'action, entre la pensée et l'agitation, il cherche toujours à définir l'homme. Hannah Arendt propose d'abandonner carrément la recherche de définition de l'homme. Son argument est simple. Pour définir l'homme, nous devons prononcer des phrases ayant pour structure sujet, copule, prédicat. C'est-à-dire que la structure même de notre expression, notre grammaire, impose un ordre auquel nous ne sommes pas certains que l'essence de l'homme corresponde. Pour définir l'homme, nous devons toujours et déjà proposer un sujet. Or, la question de la définition de l'homme est précisément la question du sujet. L'homme est, c'est déjà trop en dire ou pas assez. L'homme est un animal politique, pose le problème de l'identité entre homme et animal politique. Hannah Arendt préfère dire « l'homme fait » plutôt que « l'homme est ». Ainsi, Hannah Arendt s'oppose radicalement à la tradition de pensée occidentale et n'accorde aucune légitimité à la prétendue supériorité de la pensée sur l'action. L'homme fait, et ce qui intéresse la philosophe est de répondre à « qu'est-ce qu'il fait ?». C'est dans cette démarche qu'Hannah Arendt distingue deux activités de l'homme, le travail et l'œuvre. Le travail est l'activité qui permet à l'homme de produire ce dont il a besoin pour vivre. Le travail répond donc à une nécessité naturelle. Pour vivre, nous devons manger, nous protéger du froid, boire, faire l'amour, etc., etc. Le travail est donc par essence une activité qui produit de l'éphémère. Nous travaillons pour produire ce que nous consommons. Ainsi, travail et consommation sont les deux faces d'une même pièce qui est celle de la nécessité naturelle. Comme ce qui est déterminant est le rapport de l'activité à la durée de la production, les objets de consommation ne sont pas limités aux besoins naturels. Tout ce que nous produisons pour consommer, jeter, gaspiller, changer ou détruire est objet du travail, donc prisonnier de la nécessité. Les smartphones, les voitures et même les habitations sont devenus des objets de consommation. On les change régulièrement, on les jette, on les détruit, on les consomme. L'œuvre est en opposition le fruit de l'activité humaine qui vise l'éternité. Œuvrer, c'est, pour Hannah Arendt, ce qui produit les objets constitutifs du monde humain. Car nous ne vivons pas dans la nature, nous vivons dans un monde fait de mains d'hommes. Ce que nous utilisons, ce que nous usons, ce que nous pratiquons est issu de l'œuvre humaine. Les villes, les maisons anciennes, les tables en bois massif, les outils techniques sont autant de productions qui nous donnent la mesure humaine, qui nous donnent la mesure du possible humain. Œuvrer, c'est chercher à dépasser par l'œuvre la condition mortelle de l'homme. C'est participer au monde humain afin de transcender la nécessité naturelle. Dans la nature, tout est éphémère, cyclique, changeant. L'œuvre est cet élan de liberté humaine qui vient s'arracher aux nécessités naturelles. Le danger pour Hannah Arendt est la disparition de l'œuvre, l'absence de perspective éternelle, l'oubli du monde humain. Car sans la recherche d'éternité, l'homme se perd dans la nécessité naturelle. Il perd sa liberté, il perd son humanité. Les meubles, par exemple, autrefois produits de l'œuvre artisanale, sont devenus des produits de consommation depuis que IKEA ou But les imposent comme modes éphémères. Les habitations ne visent plus l'éternité depuis que prédomine pour leur construction la logique de rentabilité à court terme. Les livres même deviennent des produits du travail à mesure qu'ils sont écrits pour répondre à des besoins ou des modes éphémères. En séparant l'œuvre du travail, Hannah Arendt nous propose un argument pour nous méfier de la société de consommation. Mais elle nous indique aussi un chemin vers la liberté et une direction pour notre bonheur. À l'heure où le réchauffement climatique nous impose de nous positionner par rapport à la temporalité du projet humain, il ne semble pas inintéressant d'y penser. Comment s'engager pour les siècles à venir avec des logiques marchandes construites sur l'immédiateté fragile des marchés financiers et sur la rentabilité à court terme ? Et si nous pensions à arrêter de travailler pour mieux œuvrer ? Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour continuer de partager le goût de penser et d'ici là, œuvrez bien.
C'était le goût de penser, tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.